Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Elle s'étendra à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Jacob se réveilla et se dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob vit ce vœu. « Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. »
Merci beaucoup Christelle. Je veux simplement préciser que le message portera essentiellement sur les versets 10 à 19, donc presque la totalité de ce qui a été lu. Et c'était, je crois, bien de lire l'ensemble du texte, mais voilà, on se concentrera donc sur les versets 10 à 19. C'était le 23 novembre 1654, il y a un petit moment donc, tout près d'ici, à Argenteuil. Le grand mathématicien français Blaise Pascal, grand philosophe également, écrit comme à la hâte un petit texte qu'il appelle Mémorial. Et voici quelques extraits. Feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Renonciation totale et douce. Blaise Pascal a rencontré Dieu, ou plutôt Dieu a rencontré Blaise Pascal. Et il le dit lui-même, ce Dieu qu'il a rencontré, ce n'est pas un Dieu abstrait, ce n'est pas le Dieu des philosophes comme lui, au sens d'un Dieu qui ne serait qu'un concept. Mais c'est le Dieu personnel, le Dieu des promesses. Celui qui a rencontré, bien des millénaires auparavant, Abraham, Isaac et Jacob. En appelant ce texte mémorial, il est probable que Pascal avait à l'esprit un autre mémorial, bien plus ancien, qui avait été créé en l'honneur d'une autre rencontre avec le même Dieu, il y a très longtemps. Et c'est de cette rencontre ancienne que nous parle le texte que Christelle vient de nous lire. Et dans ce récit, on voit qu'en rencontrant Dieu, Jacob a découvert une nouvelle dimension de la vie et de la réalité même qu'il n'avait pas imaginée et qui ont changé son regard sur ses circonstances, sur sa vie. On va essayer donc de bien comprendre ce qui s'est passé et de voir en quoi nous pouvons nous sentir concernés par cet événement et également dans le contexte que nous connaissons de notre ville aujourd'hui, de voir ce que ce texte également peut nous dire à ce sujet. Dans cette rencontre entre Dieu et Jacob, il y a trois éléments que j'ai retenus en tout cas, une promesse, une attente et une présence. Et donc on va commencer par une promesse, notre premier point. Jacob savait sans aucun doute que Dieu avait fait des promesses à sa famille. À son grand-père Abraham, Dieu avait adressé cette promesse tout à fait saisissante. Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, versets 2 et 3. Et puis, bien des années plus tard, c'est à Isaac, fils d'Abraham, que Dieu s'adresse à nouveau directement pour dire « Je serai avec toi et je te bénirai, je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. » Chapitre 26, versets 3 et 4. Donc on peut tout à fait imaginer que Jacob, le petit-fils, avait entendu parler de cela. Dieu avait rencontré personnellement son père, son grand-père et son père, j'imagine qu'il lui en avait dit quelques mots. Mais on peut penser que ça restait assez abstrait pour lui. Il lui manquait encore une rencontre personnelle avec le Dieu vivant. Comme c'est sans doute le cas de certains parmi nous ce soir. Il vous manque peut-être encore une rencontre personnelle avec le Dieu vivant. Jacob va faire cette rencontre au moment où, dans un sens, on l'attend le moins dans sa vie. Il vient de quitter dans la précipitation son chez-soi. Alors officiellement pour aller trouver une épouse, mais surtout pour fuir la colère de son frère Ésaü. Il se trouve donc dans une situation d'angoisse, d'insécurité, d'incertitude sur l'avenir. Peut-être les mêmes sentiments qui traversent notre esprit ces jours-ci. Angoisse, insécurité, incertitude sur l'avenir. Et dans ces circonstances-là, Dieu va venir à la rencontre de Jacob. Alors il le fait par un rêve. Mais il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas un de ces rêves sans queue ni tête que nous faisons souvent et qu'on oublie 30 secondes après l'avoir fait. Hein, le genre de rêve où vous vous retrouvez sur un télésiège avec un copain du collège à remplir votre déclaration d'impôt, ce genre de choses. Non, le narrateur nous montre clairement ici que derrière ce rêve, il y a une vraie rencontre avec Dieu. Et d'ailleurs, on voit que Jacob lui-même n'en doute pas. Or, au cœur de cette rencontre avec Dieu, il y a une promesse, ou plutôt un ensemble de promesses. Versets 14 et 15. « Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Si on a lu ce qui précède dans la Genèse, on remarquera que cette promesse est quasiment la même que celle qui a déjà été adressée à Abraham et puis à Isaac. Une famille qui deviendra un peuple, qui devient un ensemble de peuples partout dans le monde. Une bénédiction personnelle accordée à Jacob, mais qui ensuite devient une bénédiction pour beaucoup d'autres, une bénédiction pour toutes les nations. Alors lorsqu'on lit ce genre de récit et cette vision, ce rêve, on peut se dire « mais il a de la chance quand même Jacob, j'aimerais bien moi avoir un songe comme ça où j'entends directement la voix de Dieu qui s'adresse à moi et qui me fait des promesses. » Mais si je vous disais que tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus ont reçu la même promesse que Jacob et même des promesses encore plus directes et fortes. Il y a cette promesse du Christ ressuscité à tous ceux qui ont placé leur foi en lui. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Il y a cette promesse stupéfiante d'une vie nouvelle, impérissable, qui l'emportera même sur la mort et dont parle entre autres l'apôtre Paul. Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Il y a cette promesse d'un monde nouveau qu'on retrouve plusieurs fois dans la Bible et que nous rappelle l'apôtre Pierre, par exemple. 2 Pierre 3,13. Nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. On remarque le contraste avec le monde actuel. Et combien nous aspirons à ce nouveau monde. Si Dieu n'était pas un Dieu de promesses, en fait, nous n'aurions aucune raison d'être assemblés ce soir, mais par définition, une promesse, c'est un engagement, et c'est un engagement pris sur l'avenir. Et donc la promesse implique une attente, et c'est notre deuxième point, une attente. Il faut reconnaître qu'on vit à une époque où on n'aime pas attendre. De plus en plus, on s'habitue à ce que tout se passe dans l'immédiat. Il faut avoir tout, tout de suite, et je m'inclus pleinement là-dedans. Je reconnais cette tendance en moi. L'ironie d'ailleurs veut qu'au moment où j'ai préparé ce message, et j'arrivais donc à ce deuxième point, j'allais donc parler de l'attente. Et là, j'ai eu un problème informatique. Alors, ceux qui étaient à Apollo se disent décidément. Problème informatique qui m'a obligé à attendre un certain temps avant de pouvoir ouvrir à nouveau mon document. Et c'était insupportable. J'ai attendu quoi, 20, 25 minutes, mais c'était insupportable. On n'est plus habitué à attendre. Mais toute promesse implique une attente. Et Dieu, lui, nous invite très souvent à attendre. Alors c'est le cas dans la promesse faite à Jacob. Il y a un effet immédiat, et on va y revenir. « Je suis moi-même avec toi », verset 15, dès maintenant. Mais le reste, c'est pour plus tard. « Je te ramènerai dans ce pays », verset 15. Dieu ne précise pas quand. En fait, ça sera des années plus tard, après la mort de sa mère, peu avant la mort de son père. Et la promesse couvre un horizon beaucoup plus lointain que la vie de Jacob. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance, verset 4. Donc là, on est loin de l'immédiat. Jacob, il va devoir poursuivre son chemin. Il va continuer à devoir marcher jusqu'à 40. C'était des semaines de trajet, un trajet dangereux. Et puis bien au-delà, il va devoir passer des années, puis on va voir dans ce qui suit que ça va être compliqué ces années, avec des dangers, des incertitudes, des regrets, des attentes anxieuses, des larmes. Et il y a même toute une partie de l'accomplissement de cette promesse que Jacob ne verra pas de ses yeux. Par exemple, l'existence de l'église de la rue de Sèvres, où des gens de toutes les familles de la terre célèbrent Dieu. On est directement dans l'application, dans l'accomplissement de la promesse faite à Jacob. Dieu nous invite, nous aussi, à attendre. Alors tous, dans nos circonstances particulières, il y a des choses que nous attendons et parfois des attentes douloureuses. Certains attendent un emploi depuis longtemps, une situation sociale plus stable. D'autres attendent un conjoint depuis longtemps ou des enfants. D'autres attendent un apaisement d'une situation difficile qu'ils vivent depuis longtemps. Mais au fond, ce que nous attendons tous, c'est la satisfaction de notre plus profond désir. Cécile en a parlé déjà. Le désir de vivre à chaque instant dans la plénitude, la paix complète, de voir Dieu chasser tous nos doutes, toutes nos craintes, toutes nos souffrances, toutes nos peines. Et pour ça, nous devons attendre. Et en lisant la Bible, on voit que c'est un thème fréquent, l'attente, et que Dieu fait volontiers attendre. Dieu a attendu des millénaires après avoir commencé à le promettre, avant d'envoyer son fils Jésus-Christ. D'abord, il a mis à part un peuple, Israël, il a envoyé des prophètes à ce peuple. Quand Jésus est finalement venu, bien plus tard, tous le poussaient à agir immédiatement, enfin en tout cas ses disciples. Et Jésus répétait, « Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. » Il agissait, mais pour le cœur de ce qu'il était venu faire, il a attendu. Quand l'heure est venue et qu'il s'est livré à la mort, puis est ressuscité, ses disciples s'attendaient à ce qu'il transforme immédiatement le monde entier, qu'il balaye le mal et la mort, et au passage les Romains, comme le promettaient les anciens prophètes. Mais Jésus leur a dit d'attendre. Il les a envoyés. Il nous envoie pour être porteurs d'un message qui transforme les vies humaines une à une, avant de bouleverser un jour l'univers entier par son intervention finale. Pourquoi est-ce que Dieu fait attendre ? À cette question, il faut reconnaître que nous n'avons pas vraiment de réponse. Alors parfois, Dieu explique pourquoi, mais pas toujours. Il ne nous révèle pas tout de sa volonté et de ses projets. Mais, et c'est un mais qui change tout, ce n'est pas une attente vaine. Parce que Dieu a posé des actes dans l'histoire humaine qui nous assurent qu'il ira jusqu'au bout et qu'il tiendra ses promesses. Il avait promis un sauveur, il l'a envoyé. Il avait promis le pardon des péchés, il l'a accompli à la croix. Il avait promis une vie nouvelle, impérissable, il l'a inaugurée à la résurrection de Jésus, qui a prouvé que le mal et la mort n'ont pas et n'auront pas le dernier mot. Il avait promis une relation plus intime, plus directe avec lui, il a envoyé le Saint-Esprit. Il avait promis un nouveau peuple partout dans le monde, il continue jour après jour de rassembler son Église. Jacob a dû attendre. Et nous aussi, nous devons attendre pour voir se réaliser toutes les promesses de Dieu. Mais dans cette attente, pour Jacob comme pour nous, Dieu promet sa présence. Et sa présence change tout. Et c'est notre troisième point, une présence. Jacob s'est endormi et dans un rêve, donc, il a cette vision saisissante. Verset 12, une échelle ou autre traduction, un escalier, c'est sans doute une traduction préférable, était appuyé sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, cet escalier. Et le verset 13 ajoute, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Dieu est là. Et il se présente, je suis l'Éternel. Verset 13. On peut se demander, en découvrant cette vision, quel est le rapport entre la vision et la promesse qui suit. C'est peut-être pas évident à première vue. Mais ce qui doit faire tilt lorsqu'on lit la description de cette vision, c'est que c'est en quelque sorte l'image en négatif d'une image qu'on a beaucoup plus tôt dans la Genèse, au chapitre 11, celle de la tour de Babel, que les hommes ont voulu construire, qui allait jusque dans le ciel, parce que les hommes ont voulu donc atteindre eux-mêmes le divin. La tour est restée inachevée parce que Dieu ne se laisse pas atteindre. Il a confondu donc ce projet. Mais ici, dans cette image, c'est Dieu qui prend l'initiative de faire le lien entre le ciel et la terre. Et c'est sûrement pas pour rien que cette image est donnée comme en introduction à la promesse par laquelle Dieu vient à la rencontre de Jacob. Dieu promet sa présence. Dieu lui assure un avenir. Et brusquement, la perspective de Jacob sur sa vie change. Verset 16, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Peut-être la réaction de certains lorsque nous nous sommes convertis, lorsque nous avons rencontré Dieu. Toutes ces années, Dieu était là et je ne m'en rendais même pas compte. Et le verset 17 est frappant parce qu'on pourrait s'imaginer peut-être que Jacob se dise wow, « quand même, j'ai une vision céleste, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est incroyable. » Mais en fait, il ne réagit pas comme ça. Sa réaction est la même que celle de tous ceux dans la Bible qui reçoivent ne serait-ce qu'un aperçu de ce qui normalement reste invisible, la présence glorieuse de Dieu. Il a peur. Et son réflexe, c'est de marquer d'un mémorial ce lieu où Dieu s'est fait connaître de lui. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob n'avait pas une théologie parfaite. Il n'avait pas encore complètement assimilé la doctrine de l'omniprésence de Dieu. C'est vrai. Il n'avait pas encore pleinement compris qu'il n'y avait pas besoin d'un lieu précis où Dieu était. Dieu a révélé cela progressivement dans sa parole. Mais là où nous pouvons tirer exemple de Jacob, c'est qu'il ne prend pas à la légère la présence de Dieu. Que ce lieu est redoutable. Et pourtant, au verset 10, on voit que lorsque Jacob est arrivé là, ce lieu, pour lui, c'était un certain endroit, sans plus. En tout cas, le narrateur nous présente les choses ainsi. Mais maintenant qu'il a compris que Dieu est présent, Jacob est poussé à l'adoration et il décide de renommer le lieu Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu. Pour Jacob, la présence de Dieu redéfinit la réalité, redéfinit tout ce qui l'entoure. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller retrouver cette stèle érigée quelque part par Jacob pour connaître la présence de Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 51, Jésus dit une parole assez mystérieuse à ses disciples, qu'on peut ne pas comprendre si on n'a pas ce chapitre Genèse 28 en arrière-plan. Jésus dit, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Qu'est-ce que Jésus dit là? Il dit l'escalier entre le ciel et la terre. Celui qui fait le lien entre Dieu et les hommes, c'est moi, le Fils de l'homme. C'est comme ça que Jésus se décrivait. Et l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens que Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2:6. Paul nous dit dans ce texte stupéfiant qu'en confiant nos vies à Jésus, nous entrons dans la présence même de Dieu. Nous n'en voyons pas encore de nos yeux cette présence, mais nous en vivons déjà la réalité. Là où Jésus est connu et cru, Dieu manifeste sa présence, comme on l'a chanté plus tôt. Or, on voit dans le texte que pour Jacob, la présence de Dieu a tout redéfini. Un lieu lambda devient la porte du ciel. Une pierre qui lui avait servi d'oreiller inconfortable devient un monument en l'honneur de Dieu. Et ça nous amène à nous poser la question, est-ce que notre quotidien a été redéfini par notre relation avec Jésus pour devenir un temple de Dieu, un lieu où sa présence est reconnue, célébrée, vécue. Est-ce que je peux dire que mon appartement, ma voiture, mais plus encore, plus important que cela, mes relations, mes paroles, mes pensées sont Bethel, maison de Dieu? Alors ne nous y trompons pas, on n'arrivera jamais à mériter cette présence, à avoir une vie tellement, tellement réglo que finalement Dieu peut sans problème manifester sa présence dans notre vie et on le mérite bien. Jamais. Pourquoi est-ce que nous pouvons vivre cette présence de Dieu? Parce que Jésus est notre représentant devant la justice de Dieu et que lui, qui est parfaitement juste, se tient pour toujours dans la présence du Père et nous représente. Mais on peut s'inspirer de Jacob qui a estimé que sa rencontre avec Dieu donnait un sens nouveau à tout ce qui l'entourait, même les choses les plus banales. Et dans la situation dramatique et effrayante que nous connaissons aujourd'hui à Paris, au-delà de l'urgence des soins, de la sécurité à assurer, des mesures à prendre qui sont très importantes, et on peut remercier Dieu pour les hommes et femmes qui se dévouent à cela et prier pour eux. Mais au-delà de ces mesures pour notre quotidien, le besoin le plus fondamental de notre pays, c'est la paix que Dieu donne. C'est le pardon qu'il offre, c'est la vie nouvelle dont il nous comble. Et l'enseignement difficile à entendre, mais profondément réaliste de la Bible, c'est que les ténèbres de ce monde ne sont pas simplement le fait de quelques extrémistes. C'est vrai qu'il y a des hommes qui se sont laissés entièrement submerger par le mal, et on en a eu la preuve dramatique vendredi. Mais la Bible affirme que nous avons tous participé à notre échelle et à notre manière au problème du mal. Ces hommes, ces terroristes, ils ne sont pas nés dans un monde parfaitement bon où ils auraient apporté le mal d'ailleurs. Et nous avons tous contribué à ce problème du mal par nos mépris, nos indifférences, nos petites ou grandes méchancetés, nos renoncements, nos égoïsmes, notre manque d'amour. Si le monde est sans cesse en proie au mal, à des degrés différents, bien sûr. Il ne s'agit pas de nier cela. Mais si le monde est sans cesse en proie au mal, c'est qu'il est fait de pécheurs qui pratiquent le mal. Et on ne peut pas prétendre être étranger à cette réalité, à notre échelle, à notre manière. Mais Dieu nous a envoyé un sauveur qui est venu au cœur de cette réalité-là. Jésus n'est pas venu dans un monde où tout allait bien. Il est venu dans les ténèbres, nous dit Jean au début de son évangile. La lumière est venue dans les ténèbres. Il est venu faire le lien entre le ciel et la terre. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Et ce Sauveur, Jésus-Christ, ne s'est pas contenté de dénoncer le mal. Il en a défait les ressorts de la manière la plus profonde possible en subissant lui-même la mort et la condamnation de Dieu sur ce mal à notre place. Et il invite chacun à venir à lui et à saisir la pleine réconciliation avec Dieu. La paix parfaite qui vient de savoir que notre vie est désormais entre les mains du Dieu qui a déjà remporté la victoire décisive sur le mal et la mort par celui qui est mort sur la croix et qui est sorti vivant du tombeau. Nous attendons encore la victoire finale, ce jour où Dieu essuiera les larmes de tous les visages, comme le dit la Bible. Mais en attendant, Dieu n'est pas inactif face aux ténèbres. Il les chasse chaque jour un peu plus, lorsque des hommes et des femmes reçoivent la vie nouvelle qu'il offre. Alors ce que nous pouvons faire de plus essentiel pour ramener l'espérance dans notre pays qui en a tant besoin, c'est de faire connaître Jésus-Christ, celui qui seul peut apporter la paix véritable, celui qui seul peut faire triompher la vie là où règne la mort. Et le meilleur moyen de faire connaître Jésus, c'est de faire de nos vies des Bethel, des maisons de Dieu. C'est de s'assurer aussi que notre église est une maison de Dieu, pas simplement parce que c'est une église, mais parce que c'est un lieu où nous trouvons refuge dans la parole et les promesses de Dieu. Que dans cette capitale meurtrie, nous puissions dire à tous ceux qui nous entourent, venez à Jésus, c'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Amen.